Compris, c'était important ce soir. On passe à un titre. Là, par contre, on revient sur ce qu'on a commencé, une reprise, j'ai envie de dire, tellement connue qu'elle a peut-être même éclipsé le morceau original, pourtant qui n'est pas écrit par n'importe qui, parce qu'il s'agit d'un morceau Bob Dylan quand même.
Voilà. Alors là, on va faire un petit bond dans le temps, un bond d'un peu plus d'un an. Alors, il s'avère que 10 titres, c'est pas beaucoup. Donc, parmi les amateurs d'Hendrix, vous me pardonnerez d'avoir fait l'impasse sur Axis But As Love, mais on y reviendra par la suite. Donc, c'est une semi-impasse. Donc, voilà. Rassurez-vous, on reviendra sur Axis But As Love. Alors, je précise un petit flashback d'histoire. Hendrix s'envole à Monterey où il donne un concert le 18 juin 67. Là, c'est le retour en force d'Hendrix aux États-Unis. Donc, qui devient, pour le coup, non seulement une rockstar en Angleterre, mais en l'espace finalement de quelques semaines seulement aux États-Unis. Enregistre en fin d'année, ce qu'effectivement à l'époque, c'est pas un album tous les 5 ans, c'est deux albums par an. Enregistre son deuxième album en Angleterre à l'automne 67 et il le sort en décembre 67 en Angleterre. Et alors même que le disque est à peine sorti, Hendrix commence à travailler sur son troisième album. Alors, Hendrix étant mort à 27 ans, il s'avère que le troisième album studio d'Hendrix, c'est son dernier album studio. C'est-à-dire, en fait, je vais me permettre de t'amender, tu avais présenté Band of Gypsies comme un album studio, en fait, c'est un album live. Donc, en fait, voilà, l'album Electric Lady Land, c'est le dernier disque studio publié du vivant de Jimi Hendrix. De l'avis de quasiment tous les amateurs, c'est son chef-d'œuvre. Alors, moi, ma vision d'Electric Lady Land, c'est la suivante. Pour moi, c'est une synthèse, un dépassement de ces deux premiers disques. Le premier album, Are You Experience, c'est vraiment l'album du guitariste. C'est-à-dire, Hendrix, comme vous pouvez l'entendre à l'instant, pose les fondements d'un jeu de guitare révolutionnaire. On peut même, comme dans le free jazz, passer au-delà de la mélodie, aller au-delà du rythme. C'est-à-dire, c'est vraiment l'émotion pure, comme ça peut être dans le free jazz. Et Are You Experience a vraiment cette dimension expérimentale de musique de guitariste. L'album suivant, sur lequel on va revenir un petit peu après, qui s'appelle Axis But As Love, est un disque en fait qui est beaucoup plus dans l'écriture. C'est-à-dire, si vous écoutez ce disque-là, vous aurez très peu de solos de guitare incendiaire. C'est vraiment le disque d'un auteur-compositeur. Il y a beaucoup des textes qui sont plus travaillés, des guitares rythmiques qui sont à tomber par terre, parce que souvent les gens retiennent Hendrix, le guitariste soliste, mais là, sur l'album en question, c'est vraiment le guitariste rythmique qui est en avant. Et vraiment la volonté d'écrire des chansons, c'est-à-dire pas uniquement se montrer au public comme étant un guitariste. Alors, Electric Lady Land marque une étape fondamentale dans la carrière d'Hendrix pour différentes raisons. D'une part, c'est le moment où Hendrix va revenir aux États-Unis, c'est-à-dire il commence à enregistrer l'album en Angleterre, et en l'occurrence, cette reprise de Dylan, comment dire, les débuts, les prémices de cet enregistrement ont été en Angleterre, mais assez rapidement, Hendrix va terminer l'album aux États-Unis. Alors, ça aura vraiment son importance au niveau du son, et ça, on va y revenir un petit peu. Et c'est aussi l'époque où Hendrix s'affranchit, c'est-à-dire il a trouvé une solution pour se débarrasser de son producteur, c'est lui mener une vie absolument impossible. C'est-à-dire les sessions de studio deviennent de véritables orgies, où de toute façon, maintenant qu'il est quand même conscient d'avoir un certain succès, alors ce qu'on peut estimer des caprices pour certains, du perfectionnisme pour d'autres, fait que les sessions studio changent complètement de nature. C'est-à-dire Hendrix, il a envie de faire 50 prises avant d'arriver juste un basic track, je ne parle pas du morceau complet, juste la prise de base, pour avoir une prise de base satisfaisante, 50 prises, il fait 50 prises. Donc, Chas Chandler, qui était complètement contre ce genre de
Donc
méthode de travail,
là, les coûts de production deviennent faramineux.
voilà, Chas Chandler part, il quitte le navire, et donc Hendrix devient son propre producteur. Alors avec l'intérêt, les limites que ça a. L'intérêt, c'est que ça lui donne une liberté artistique totale. L'inconvénient, c'est que Hendrix étant hyper perfectionniste, ça devient dur de terminer les disques. Et ça, on y reviendra sur la fin. Donc ça, c'est un premier point. Là où Electric Lady Land est un disque totalement fascinant, c'est que pour le coup, vous avez vraiment Hendrix, là pour le coup, le producteur et le façonneur de son qui intervient. C'est-à-dire, c'est un disque où vous avez deux extrêmes d'un point de vue musical. D'un côté, vous avez certains titres qui sont enregistrés en live, où en fait la composition est quasiment embryonnaire et Hendrix va tirer parti du talent des gens qui y jouent pour, comme les jazzmen le font grâce à l'improvisation, sortir des moments exceptionnels qui feront l'objet du disque. Mais c'est vraiment l'improvisation qui va faire le morceau. Ça, c'est un des aspects. Et à l'inverse, il y a des morceaux comme justement cette reprise de Bob Dylan, au long de Watchtower, où c'est l'exact inverse. C'est-à-dire, c'est des morceaux où il a passé des séances et des séances d'enregistrement jusqu'à avoir à chaque fois le solo parfait, avoir le petit effet de stéréo parfait. En gros, c'est un morceau où c'est un travail littéralement obsessionnel jusqu'à avoir une forme de perversion. De perfection. Pardon. Je ne suis pas sûr que le lapsus soit révélateur en l'espèce. Alors, pourquoi je vous explique ça? C'est bon, évidemment, là, on a quand même un assez bon matériel audio. Ceux qui sont devant pourront vraiment profiter de la stéréo. C'est que vous allez voir que comparé au premier morceau où vous aviez encore un son assez frustre, là, pour le coup, vous allez avoir une perfection sonore. À titre personnel, ça m'impressionne encore plus que du Pink Floyd en termes de travail sur le son. C'est-à-dire que vous avez un travail sur la stéréo qui fait que vous avez quasiment un son 3D. Alors, c'est manifeste sur le titre qui vient, mais ça sera aussi le cas sur d'autres. Et donc, vraiment, là, pour le coup, vous avez Hendrix qui s'implique à fond en tant que producteur et qui, là, alors là, c'est assez intéressant de voir cette reprise de Dylan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la version originale de Bob Dylan, de All Along the Watchtower. C'est pas sur le meilleur disque de Bob Dylan, hein, c'est sur John Wesley Harding, qui est un disque un petit peu bâclé de Bob Dylan, qui était resté un certain temps sans faire de disque après Blonde on Blonde. Et si vous écoutez la version originale, il y a même Bob Dylan qui joue de l'harmonica où il est moitié faux. C'est à des antipodes de la version d'Hendrix, où là, pour le coup, on essaye d'avoir une véritable perfection formelle. Alors, c'est vrai que c'est souvent cité comme exemple des plus belles reprises, c'est-à-dire, c'est quand même assez rare de voir des reprises qui dépassent l'original. Là, en l'occurrence, même s'il y a des gens, y compris Noël Redding, le bassiste de l'expérience, qui préfèrent la version de Bob Dylan, il y a quand même un certain consensus comme quoi la version définitive de All Along the Watchtower, c'est celle de Jim Hendrix, et ben, je vous invite tout simplement à l'écouter.
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there who drank my wine, come and dig my earth. None will level on the mind, nobody
thank you.
Donc Hendrix qui transfigure Bob Dylan.